La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire?
Par où dire?
Cette biennale. Architecture, 2018, Chantal Lassonville, en dehors du pavillon belge.
J'ai l'impression qu'il y a dans cette biennale 2018 un peu une confirmation d'une évolution de ce que j'ai ressenti déjà dans des biennales précédentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Venise n'est plus un lieu de monstration de l'architecture au sens traditionnel où on peut l'entendre, mais que Venise devient davantage un lieu de débat, un lieu de prise de position politique sur la place que l'architecture peut occuper dans l'espace collectif, dans la dimension environnementale, évidemment, qui est un sujet qu'on a quand même beaucoup croisé dans les pavillons, dans la place de l'homme. Il y a des pavillons qui très explicitement se sont exprimés là-dessus, puisque l'architecture est évidemment d'abord destinée à être habitée par l'activité humaine. Elle illustre aussi l'activité humaine, et donc le sens de l'architecture à ce titre-là est évidemment interrogé chaque fois qu'on pose un acte. En matière d'architecture, ça n'est pas simplement un objet, ça n'est pas simplement une construction technique ou un investissement financier, c'est évidemment une manière d'occuper le monde, une manière d'occuper l'espace, et donc ça pose toute une série de questions, et j'ai l'impression que la biennale évolue dans ce sens, ce qui est plutôt positif.
16e biennale d'architecture, Venise 2018, jusqu'au 25 novembre. Second volet, questionnements divers dans le monde.
Moi, j'ai bien aimé le pavillon de la Grèce parce qu'il interroge une thématique qui est quand même assez centrale dans ma pratique également, en tout cas dans mes préoccupations. C'est la question de l'enseignement, des lieux d'enseignement. Je pense que les lieux d'enseignement restent des lieux qui justifient une attention particulière en matière d'espace, de création d'espaces architecturés, puisque ils vont être évidemment le lieu de tous les apprentissages, et notamment du rapport au monde, du rapport à l'espace, du rapport aux autres, etc. Donc, une attention particulière à ces espaces d'enseignement, je trouve que c'était une thématique importante, d'autant plus qu'elle est relativement délaissée.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse.
Vous allez où ?
11e.
Ces lieux nous parlent.
Chantal Dassonville.
J'entendais ce matin à la radio un papier sur le boom économique du Portugal. Et on décrivait évidemment tous les bienfaits de ce boom économique, mais on décrivait aussi une espèce de revers de médaille ou de choses qui manifestement n'a pas l'air d'aller de pair avec... Avec ce développement, les équipements publics tels que les écoles et les hôpitaux, par exemple, sont toujours complètement délaissés et dans un état de dégradation important. C'est pour moi assez incompréhensible qu'on puisse vanter à ce point les bienfaits d'une société et que dans le même temps, on constate que ces équipements-là, qui sont quand même assez essentiels, ne font pas partie de cette dynamique de développement.
16e Biennale d'architecture, Venise 2018. Jusqu'au 25 novembre. Second volet, questionnements divers dans le monde. Avec, pour le Grand-Duché du Luxembourg, Andrea Rumpf, Florian Hertwerk. Pour le Canada, Régent Legault. Pour la France, avec entre autres, Patrick Bouchain, Ophélie Desrolles, Nicolas Delon, Sébastien Hénard. Regard de la Belgique, Iwan Stroven et Chantal Dassonville. Alors, des coups de cœur, Iwan Stroven, concernant cette biennale de Venise en architecture, car vous êtes responsable ici au Palais des Beaux-Arts de la section architecture. Êtes-vous architecte vous-même ?
Tout à fait, oui. J'ai étudié l'ingénierie architecture à l'Université de Gand.
et voilà, je suis architecte, mais je suis un architecte qui ne pratique pas, je ne construis pas. J'exerce d'autres métiers d'architecte, comme on dit aujourd'hui. J'enseigne à la faculté d'architecture La Comporta à Bruxelles et je suis également programmateur des expositions, conférences d'architecture ici au Palais des Beaux-Arts.
N'êtes-vous pas celui qui vous êtes occupé du guide de Charleroi notamment ?
Tout à fait.
À l'Arsenal, le pavillon du Chili était très interpellant aussi, hein, très politique évidemment. Mais il illustre combien un espace aussi gigantesque qu'un stade de foot peut être utilisé de différentes manières, et évidemment pour le meilleur et pour le pire. Et combien cet équipement aujourd'hui devient symbole d'une histoire. Alors qu'évidemment, à l'origine, il n'est pas construit ou imaginé pour fabriquer ce type de récit, mais aujourd'hui, il porte une partie de l'histoire de ce pays. Donc je trouve aussi que c'est assez important de redire combien l'acte architectural s'inscrit dans une lignée, dans une histoire, en particulier évidemment quand on parle d'architecture publique ou d'architecture en tout cas qui s'adresse à un grand nombre de personnes, comme c'est le cas évidemment pour nous ici dans notre travail à la Cellule Archi, puisque nous nous occupons des concours publics, donc c'est toujours une question liée à un usage public, à une représentation de la collectivité. Qu'est-ce que c'est une maison communale? Qu'est-ce que c'est un théâtre? Qu'est-ce que c'est un équipement sportif? Qu'est-ce que c'est une école par rapport à la collectivité, en dehors du bâtiment et par rapport à la collectivité qui va devenir l'usager du bâtiment. Et donc je trouve que ça redit de manière assez forte, évidemment, puisqu'on est quand même très pris par les images et très impressionné aussi par les images, mais ça redit de manière assez forte la vertu symbolique que peut aussi revêtir une architecture, soit au moment de sa conception, soit au travers, à un moment donné, de ses différents usages, de ce qu'elle dit de la société à laquelle elle s'adresse ou au monde avec lequel elle communique.
Tous les deux ans, il y a cette rencontre de la scène internationale à Venise. C'est la 16e édition, c'est 32 ans. Et c'est la première fois que les commissaires invités sont des architectes femmes. Un duo irlandais, Crafton Architects, Yvonne Farrell et Shelley McNamara, deux femmes qui sont par ailleurs venues ici au Palais des Beaux-Arts donner une conférence ensemble. Elles ont choisi une thématique qui est Free Space.
Free Space, en anglais, en français, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu, mais en anglais c'est Free Space. C'est une thématique très large qui permet d'embrasser une variété de présentations, comme en général la Biennale le fait. J'ai peu à dire sur cette thématique qui est stimulante, mais qui est extrêmement englobante.
Ils vont à la recherche d'une architecture qui rend possible des choses dans des espaces qui ne sont pas forcément programmés, qui prennent du coup le statut d'un espace public qui est ouvert à plein de possibles.
Andrea Rumpf.
Florian Hertweg.
Nous sommes au Grand-Duché du Luxembourg, à la Biennale de Venise. Quelle est la question du pavillon ?
C'est la question du foncier, donc en fait le thème c'est la privatisation du sol. Quand on regarde le Luxembourg, il ne reste que 8% du sol urbain constructible qui reste en propriété publique. Ça veut dire que 92% du sol constructible sont privatisés. Ce qui pose des problèmes en termes de développement urbain, bien naturellement. Et nous pensons que la question du logement est en réalité une question du sol. On a essayé de démontrer ça à travers une installation. Et puis on s'est posé la question, comment l'architecture peut-elle réagir à cette problématique-là? Donc on a fait une recherche et on a développé plusieurs typologies architecturales. Et pour cette exposition, nous avons choisi la dernière, la plus radicale, qui est le bâtiment sur pilotis, qui garde le sol dégagé, libre, accessible pour des usages publics. Et donc, ce n'est évidemment pas un plaidoyer pour la ville sur pilotis, mais c'est un plaidoyer pour considérer le sol comme un bien commun, comme l'eau et l'air.
Déjà, pour les municipalités ou les communes, ça veut dire qu'ils ne sont plus les maîtres de leur propre peut-être, politique de développement, parce qu'ils n'ont plus accès à des terrains. Et pour les citoyens, évidemment aussi, de s'installer dans des communes ou dans le pays même. Au Luxembourg, on a le phénomène que une partie des gens qu'il aimait bien habiter et construire au Luxembourg sont maintenant cherchent des terrains dans la grande région, en Belgique, en France, en Allemagne. Et là, ce sont les prix qui augmentent et les gens qui habitaient là avant, qui sont forcés peut-être de s'installer dans les hinterlands. Et ça, c'est un effet de ce moteur fort de Luxembourg qu'on aimerait bien arrêter ou trouver des moyens pour répondre à cette croissance économique qu'on a au pays et de vraiment loger les gens chez nous.
16e Biennale d'architecture Venise 2018, jusqu'au 25 novembre. Second volet, questionnements divers dans le monde.
La politique est consciente de ce problème et ils ont commencé à trouver des solutions, par exemple par des taxes, en achetant des terrains et après les changer contre des terrains encore plus intéressants. Mais ça va prendre encore une génération ou deux. Donc notre question, c'est maintenant qu'est-ce que l'architecture, l'architecte, le maître d'ouvrage peut déjà faire dans cette situation, sans attendre les réactions de la politique. Et ça, c'est vraiment maintenant une proposition de faire accessible ce sol privatisé pour des utilisations publiques communes.
Florian Hertwig.
Pour vous donner un chiffre, il y a 180 000 transfrontaliers en fait, qui traversent la frontière tous les jours pour travailler au Luxembourg, sur 600 000 habitants. Le grand souci, c'est que c'est la pénurie de logements, bien évidemment. Les prix du logement ne cessent de grimper. On a estimé qu'on pourrait construire entre 50 à 80 000 logements si on pouvait mobiliser les terrains qui sont intégrés dans les PLU, qui sont potentiellement constructibles. Mais il y a le phénomène d'une spéculation passive. Les propriétaires de ces terrains n'ont pas trop d'intérêt de les développer parce que la valeur augmente d'année en année. Et ça, c'est le thème finalement qu'on voulait ici montrer dans une exposition aussi jouissive et non pas dépressive.
Les Baumeisters qui organisons des concours d'architecture, cette question de représentation est un peu un problème aujourd'hui, dans la mesure où elle est trompeuse aussi. Et lorsque ce type de représentation trompeuse s'adresse à des personnes qui ont moins l'habitude de lire ou de comprendre l'architecture, nous, on a une difficulté après à fonctionner un peu à contre-courant.
Chantal Dassonville.
Pour essayer de convaincre combien, en réalité, si on regarde de plus près, si on analyse davantage, le projet n'est pas aussi séduisant qu'il veut bien le dire.
Je suis convaincu qu'effectivement, pour l'architecture, il y a un rôle à jouer pour intégrer les grandes questions de changement climatique, mais aussi l'utilisation de l'espace par les minorités, les questions sociaux de nos temps, de les traduire en espace, d'intégrer ces grandes questions et les solutions qu'on peut apporter dans une vision spatiale.
Je suis Sébastien Aymar, l'un des trois commissaires du pavillon français à la Biennale de Venise cette année. J'ai essayé de répondre à l'appel des commissaires irlandaises là, qui ont énoncé le free space comme étant le sujet de cette biennale. Et donc, nous, on l'a pris un peu au pied de la lettre en témoignant de lieux que l'on avait rencontrés qui pratiquent des espaces de liberté, de gratuité et qui nous permettent d'imaginer peut-être d'une certaine manière un meilleur monde, parce que en fait nous on a découvert que certains de ces lieux, les 10 qu'on présente ici, sur lesquels on a travaillé, arrivent à répondre d'une manière un peu plus pertinente que d'autres endroits à des problématiques de société comme la crise écologique, la crise de cette incapacité qu'on a de plus en plus à vivre ensemble, ces montées de nationalisme et ainsi de suite. Et voilà, on voulait partager à Venise le fait que il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a des endroits qui arrivent et les architectes sont souvent des très grands acteurs de ces endroits-là. C'est pour ça qu'on a sous-titré l'exposition « Construire des bâtiments ou faire des lieux ». C'est une façon de dire aussi que notre rôle d'architecte, notre rôle un peu pivot dans la société comme ça, entre plusieurs mondes, entre le monde politique, le monde des ouvriers, des immigrés, des usagers, il a un rôle fondamental. On a un rôle de pivot et de transmission de quelque chose. Les lieux que l'on présente, ils sont pour beaucoup portés par des architectes, même des fois qui l'ont inventé, qui sont devenus des concierges, des gardiens de lieux et qui, par leurs connaissances et compétences, ont aidé à la transformation de ces lieux, qui sont souvent des lieux qui préexistaient avant, Il y avait un autre usage industriel ou délaissé urbain ou de zone indéterminée et qui ont été réoccupés et transformés par l'usage. C'est cette transformation par l'usage que l'on a voulu raconter ici au pavillon de la France.
Alors moi je m'appelle Ophélie Desrolles. On développe le projet de la Grande Halle à Colombelles à côté de Caen, en Normandie.
On parle de la friche Belle de Mai, qui est un site qui fait 45 000 m² dans une ancienne usine de cigarettes à Marseille. Et nous, on a réalisé une petite aire de jeu au milieu, dont on ne parle pas à l'exposition, mais c'est en travaillant dans le lieu qu'on s'est rendu compte qu'il portait des choses qui dépassaient la simple architecture et les simples réalisations. Et que la façon dont il était utilisé, tout le processus qui a constitué ce lieu était fondamentalement intéressant à partager, et c'est pour ça qu'on le partage. Pour certains, comme le 104 à Paris, on y a notre agence, donc on est au milieu de ce lieu-là et on l'observe. On voit que ça faisait partie normalement de ces lieux fermés des grands établissements culturels français. Et en fait, il a été décidé d'ouvrir les portes et maintenant on voit les voisins des quartiers populaires qui viennent danser, jongler, se mêler aux grands artistes qui sont invités et se fabrique ce qu'on arrive à pas avoir dans beaucoup d'autres endroits, une sorte de mélange comme ça de société, et tout le monde y trouve son compte, vraiment tout le monde. Donc nous on les connaît très bien parce qu'on les pratique, on y travaille, ou on commence à y travailler en ce moment.
Ophélie Desrolles. Je suis la cofondatrice du WIP. Le WIP, c'est une association et une société coopérative qui développe justement des lieux comme la Grande Halle, comme la Cité de Chantier, pour en faire des lieux de partage, des lieux de travail, des lieux de convivialité, des lieux de culture. Et nous gérons ces lieux-là. On a commencé avec la Cité de Chantier depuis un an et demi. Les travaux de la Grande Halle viennent de démarrer et on ouvrira en septembre 2019.
Il y a un lieu dont on parle beaucoup, même jusqu'en Belgique, et qui n'apparaît peut-être pas chez vous, au pavillon de la France, à la Biennale de Venise d'architecture.
Oui.
Notre-Dame-des-Landes, vous riez.
C'est un lieu qui aurait presque pu être dans cette exposition, tout à fait. Il se trouve que nous, on n'y a pas de lien. On a beaucoup d'amis qui sont investis, qui ont travaillé, qui ont observé. Beaucoup d'architectes sont intervenus à Notre-Dame-des-Landes avec des écoles entières. Des écoles d'architecture sont venues avec des étudiants.
Patrick Bouchin.
Comme toujours, c'est sur le terrain ou sur un cas qu'on peut découvrir la stupidité bureaucratique ou humaine. Et donc à Notre-Dame-des-Landes, qui était donc un lieu, on pourrait dire, abandonné par l'agriculture au prétexte que c'était un lieu humide et qu'on avait confié donc pour mettre en place un équipement qui pouvait correspondre à un besoin à l'époque et qui, au bout d'un certain temps, ne se fait pas. Et donc, qui a obtenu que ça ne se fasse pas, ce sont des gens, en fin de compte, désarmés, complètement désarmés, mais dont la logique de la réflexion et de la pensée est juste. Et donc ce sont des gens sans armes, sans moyens, on pourrait dire sans formation, qui ont fait tomber, c'est David et Goliath, qui ont fait tomber un projet absurde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils occupent de manière douce une nature qui allait être abîmée. Et on découvre que les constructions qu'ils ont faites dessus sont des constructions écologiques, puisqu'elles sont faites avec des matériaux rudimentaires, qu'ils peuvent vivre en autosuffisance alimentaire, donc que le territoire peut être encore un territoire nourricier, et on leur interdit de rester au prétexte qu'ils ne sont pas agriculteurs. Et donc, on leur dit maintenant aujourd'hui, c'est pour ça que j'y vais dimanche, on leur dit, vous pourrez éventuellement rester sur les parcelles que pour ceux qui ont un diplôme d'agriculture. Mais justement, ils font une agriculture alternative. Donc c'est celle qui n'a pas été enseignée dans les écoles, et c'est peut-être celle d'ailleurs qu'on devrait voir, qu'on devrait emmener les lycées agricoles, voir cette agriculture humaine, qui est une agriculture de bon sens. Il n'était pas une agriculture scientifique, mais une agriculture humaine. Et donc du coup, quelqu'un qui aujourd'hui peut vivre en autosuffisance alimentaire, en protégeant un territoire, qui est quand même, qui nous a été légué depuis des centaines de millions d'années, quelqu'un qui dit « je peux être en autosuffisance » et « un, je peux être boulanger ». Car je peux même inventer un emploi et peut-être vivre de cet emploi. Et on lui dit « non, le terrain est classé agricole. C'est un monde de fous. C'est-à-dire qu'on a déclassé un terrain agricole pour en faire un aéroport. Eux, ils ont gagné pour que ce ne soit pas un aéroport, que ce soit un terrain agricole. Et eux, sur ce terrain agricole, ils montrent qu'il peut y avoir une activité humaine qui a existé depuis la nuit des temps, de manger son propre pain. Et on leur dit que ce n'est pas possible. Alors j'y vais en allant lire des articles du Code rural et forestier, qui est un code français. Et je vais essayer d'opposer le droit au droit. Je vais essayer de démonter l'autorité par le droit. Voilà. Donc je vais faire une lecture du Code rural et forestier dimanche à Notre-Dame-des-Landes.
J'ai pu aller là-bas il y a 2 ans et j'en ai un souvenir encore très ému d'une végétation
Nicolas Delouze.
Qui raconte beaucoup en fait de sa liberté aussi. Et donc là aujourd'hui on est dans une biennale d'architecture qui pose la question de la liberté, du free space. Et nous pensons que dans ces situations-là, dans ces défenses de territoire, qui sont contre un aéroport, mais qui sont aussi pour une vie différente, c'est très important de penser que un combat n'est pas toujours un combat d'opposition. C'est aussi un combat pour soi-même s'engager et être à l'épreuve d'un futur que l'on souhaite différent. Et donc, c'est vrai que l'exposition « La lieu infini » que nous proposons, elle parle de ces libertés, de ce courage de ces gens qui s'engagent et qui décident parfois de donner leur vie entière pour ces utopies réalisées. Pour nous, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes doit être regardé. Nous ne disons pas que cela doit être appliqué, multiplié, copié, pas du tout. Mais quand nous avons signé la tribune qui soutenait pas l'occupation, mais qui soutenait l'expérimentation qui avait eu lieu sur cette occupation. Et ça, c'est très important.
Après une promenade que Gilles Clément a faite avec eux pour montrer donc la diversité biologique et le biotope conservé à cet endroit, dont on pourrait dire, d'ailleurs je crois que ça existe, j'ai pas retrouvé encore l'article dans le code, mais quand il existe un terrain dont on pourrait dire que la qualité biologique et que son biotope est exemplaire, on pourrait le classer au même titre qu'on peut classer un monument historique. On peut, par une mesure autoritaire de l'État, classer un terrain pour le conserver. Je voudrais justement, peut-être après le passage de Gilles, dire, voilà, quelqu'un est venu avant moi, et donc aujourd'hui on pourrait passer à l'acte de déclasser ce terrain qui est un aéroport, parce qu'il est toujours un aéroport. Et donc celui qui aujourd'hui bloque toute négociation, c'est le concessionnaire. C'est celui qui a la concession, qui ne l'a pas encore rendue, car il ne veut la rendre que quand il recevra un dédommagement. Et le dédommagement qu'il va recevoir est de 150 millions. C'est-à-dire qu'on ne donnerait pas 5000 euros par agriculteur, ou on ne donnerait pas un terrain gratuit à chaque agriculteur, et on va donner 150 millions à quelqu'un qui n'a rien fait. Moi, je pense que ça ne peut plus durer.
Le défi écologique, le défi de solidarité lié au déplacement de population, aux migrations notamment, ce sont les deux grands défis de notre génération et de notre temps. Si nous ne les prenons pas à bras-le-corps, il n'y aura plus de futur possible, il n'y aura plus même de biennale d'architecture, il n'y aura même plus Venise. Venise disparaîtra, soit engloutie par les eaux, soit engloutie par des personnes que nous n'aurions pas acceptées, intégrées ou en tout cas écoutées. Donc moi je m'appelle Nicolas Delon, je suis un des 3 commissaires de l'exposition Lieu Infini qui se tient dans le pavillon français à la Biennale internationale d'architecture de Venise.
Nous ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble des gens
qui veulent être rassemblés.
Qui veulent être rassemblés quand on marre de bosser souvent tout seul chez eux, ou quand on marre d'être mis dans une catégorie, qui ont envie de s'ouvrir à d'autres publics, à d'autres métiers, à d'autres façons de faire. Et il se trouve que des animations diverses et variées, des déjeuners, des concerts, des apéros, et puis le fait de partager collectivement un lieu fait que tous ces gens-là se rapprochent, créent une communauté autour de valeurs communes comme la coopération, la bienveillance, l'envie de faire avec, l'envie de faire, tout simplement. Et du coup, petit à petit, ça nous permet d'aller plus loin que nos propres projet individuel et de construire du collectif, et que ce collectif-là permet de porter des projets sur le territoire qui, par exemple, on a construit une serre avec les habitants de Colombelles parce qu'il y avait une paysagiste parmi nos résidents. On a organisé il y a 2 jours, sans nous, ils sont tellement autonomes maintenant qu'ils n'ont même plus besoin qu'on soit là. C'est-à-dire que les résidents de la cité de chantier et de la Grande Halle s'organisent tout seuls pour faire venir les habitants, organiser des zumba géantes, organiser des marchés des savoir-faire. Et petit à petit, on redonne vie à un territoire qui avait une image très négative, une ancienne friche industrielle, pollué, qui a fermé il y a 25 ans, qui était complètement à l'abandon. Et les gens redécouvrent ce lieu-là avec fierté, se le réapproprient et du coup se rendent compte qu'il est possible de faire des choses. Et tout l'enjeu pour nous, en tant que coordinateurs de ça, c'est qu'ils s'autorisent et qu'ils se disent que les projets qu'ils n'imaginent pas ou les projets qu'ils s'empêchent de faire, à cet endroit-là et avec l'énergie que tous ensemble nous mettons, ils vont pouvoir les faire. Est-ce plus clair ? Quand ils réalisent que ce qui peut être compliqué est en partie lié à la solitude, les lieux comme les nôtres, et puis surtout le fonctionnement que nous avons, qui permet d'inclure tout le monde, parce qu'on est vraiment dans un système très coopératif, où chacun a son mot à dire, chacun est acteur des décisions prises, et du coup, ils deviennent eux aussi, non seulement ils quittent leur solitude parce qu'ils reviennent dans une communauté, alors il y a plein de communautés différentes, mais là c'est aussi une communauté de travail, une communauté de convivialité tout simplement, et en plus, ils sont acteurs de ce collectif et pas que passifs, et ça c'est important. Donc il y a certainement un enjeu de solitude, et puis il y a aussi un enjeu d'avoir prise sur la société qui est en train d'évoluer. On sait que avec tous les appareils numériques, avec l'innovation numérique comme on l'appelle, les uns et les autres, pour une grande partie, se sentent complètement paumés parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a prise. Et donc, le fait de permettre à chacun d'être acteur, mais aussi concrètement, fait que tout d'un coup, les uns et les autres se disent qu'ils ont prise sur le monde et qu'ils sont donc acteurs de la société dans laquelle ils évoluent. Donc, c'est une forme de citoyenneté aussi qu'on essaye de remettre au goût du jour. Le fait que chacun se sente citoyen et légitime à s'exprimer et légitime à choisir et à prendre des initiatives et du coup à décider pour lui-même tout en participant à des projets collectifs, parce que pour moi le collectif est aussi important dans la politique, c'est pas on le fait pour soi et on le fait aussi pour le vivre ensemble, et je pense en effet que c'est des actes politiques. Alors dans notre projet, dans celui qu'on mène avec la Grande Halle de Colombelle, on questionne le vivre ensemble, mais pas encore l'habiter ensemble. On connaît des collectifs qui le font, qui du coup peuvent avoir aussi une portée et une écoute dans les projets que nous menons. On peut organiser des débats, des questionnements autour de l'habiter ensemble. Ça rejoint de toute façon des questions qui se posent aussi dans le travailler ensemble, faire des projets ensemble sur la gouvernance, sur l'écoute, sur les prises de décision, sur la justesse, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équitable entre ceux qui participent à ce genre d'action.
Ophélie Desrolles.
Mais c'est vrai que ce n'est pas des questions qui, aujourd'hui, nous sont directement liées. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on est sur un site qui ne peut pas être habité. La réglementation nous l'empêche, notamment parce que c'est un site pollué. Et deuxièmement, parce qu'on a décidé d'attaquer le sujet par le travailler ensemble.
Nous arrivons à l'épuisement mondial des ressources pour construire. Les architectes ont longtemps cru qu'il suffisait de tracer deux traits sur un papier pour ensuite construire ce dessin dans la réalité. En fait, aujourd'hui, on est à la limite de toutes ces ressources-là, donc on va devoir construire avec ce qui est déjà là. Et donc, les constructions dont vous parlez sont dans une radicalité, dans un dénouement, dans un bricolage. Nous, on appelle ça les bricolages organisés. C'est-à-dire que ce n'est pas un bricolage dépréciatif, c'est un bricolage où chaque action répond soit à une ressource, soit à un potentiel, soit à un besoin. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est presque un retour à une architecture vernaculaire telle qu'elle se fait depuis la nuit des temps, où l'architecture a toujours été faite par rapport aux besoins et parfois aux besoins aussi de beauté, pas uniquement aux besoins fonctionnels. Et donc, nous pensons que le réemploi des matériaux sont aussi un des défis de notre temps. Et nous avions fait une exposition à Paris qui s'est appelée « Matière grise » sur l'obligation que nous avons à ne plus jeter de matière. Et là, l'exposition que nous présentons ici à Venise, l'ensemble des matériaux de scénographie ont été prélevés et récupérés récupéré de l'exposition d'art contemporain qui a eu lieu dans le pavillon français l'année dernière. Et donc, nous n'avons pas acheté de bois et surtout, nous n'avons pas jeté de bois. Donc, c'est ça le double gain du réemploi. C'est qu'à la fois, vous ne prélevez pas de ressources dans les milieux naturels et également, vous ne déversez pas des déchets dans l'atmosphère ou sous terre. Donc, on est vraiment gagnant des deux côtés.
Vraiment créer un échange entre les experts internationaux qui viennent pour la biennale pendant 6 mois, mais aussi les Vénitiens qui se font de plus en plus rares et qui sont là toute l'année, et essayer de créer des échanges entre ces deux acteurs, en fait. Parce que c'est vrai que la biennale pendant 6 mois, ça ne permet peut-être pas à des initiatives locales d'émerger autant qu'ils le pourraient. Donc l'idée, c'était vraiment de favoriser un terrain et un terreau local qui est dense et qui est très riche, de le valoriser. C'est ce que Biennale Urbana fait depuis 2 ans ici. Et c'est ce qu'on a voulu faire en présentant ces 10 lieux, mais aussi en présentant un lieu qui est celui de la Caserma Pépé à Venise à l'échelle locale. Et justement, dans l'exposition, l'idée, c'est de présenter ces 10 lieux, mais aussi toutes les initiatives et encourager ces initiatives qui ont lieu à l'échelle nationale, à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle mondiale. Donc il y a toute une salle où il y a justement une carte, un atlas mondial, et on encourage chaque visiteur à renseigner son lieu infini à l'échelle mondiale. Donc ça va nous permettre d'avoir une grosse database de toutes les initiatives associatives, publiques, privées, parapubliques. En fait, l'idée de cette programmation à la base, c'est qu'on n'avait pas ce projet Espérance APP, et on proposait aux 10 lieux présentés dans l'exposition, on leur donnait une carte blanche pour faire des événements, pour se rencontrer, réfléchir sur leur modèle, faire aussi des temps communs. C'est des lieux tous assez singuliers et assez différents, mais qui aussi se retrouvent par une gouvernance commune. Ce sont tous aussi des lieux mondes avec une certaine horizontalité, avec tous parfois des modèles précaires, plus ou moins précaires. Aussi des aménagements qui sont temporaires, enfin des conventions d'occupation temporaires. Voilà, essayer de créer une programmation qui essaye de poser ces différents enjeux. On cherchait un lieu d'hébergement, en fait, pour loger ces 10 lieux, et peut-être aussi on cherchait un tissu local associatif pour essayer de créer des synergies entre le local et les 10 lieux en France. Il se trouve qu'on est tombé sur l'association Biennale Urbana qui justement a occupé ces espaces depuis 2 ans déjà, de manière beaucoup plus ponctuelle à travers des workshops. On s'est rapproché d'eux et il se trouve que on s'est trouvé dans une synergie commune, et donc petit à petit on a pensé ce lieu en un lieu d'hébergement pour les 10 lieux, mais aussi un lieu de programmation qui fait le lien entre ce qui se passe au pavillon français et ce qui se passe au niveau plus local ici. Donc il y a des événements à la fois d'envergure internationale, puisque c'est les 10 lieux français, c'est une coopération aussi avec des pavillons étrangers. Le pavillon américain est venu nous voir par exemple pour éventuellement faire un workshop ici en septembre, qui aussi a une thématique qui peut rejoindre la nôtre sur la citoyenneté, sur les lieux mondes, etc., les frontières. Donc voilà, au pavillon, en fait, les 10 lieux présentent tous des conférences sur des thématiques qui leur sont propres, avec des intervenants extérieurs. Il y a aussi une programmation avec nos partenaires, par exemple la SNCF, qui veut faire un événement sur l'urbanisme transitoire, parce que la SNCF a plusieurs terrains, ils ont beaucoup de fonciers, notamment la SNCF Immobilier, qui sont des anciennes gares en France et qui veulent réhabiliter justement en lieu d'occupation, de préfiguration, d'activation culturelle, d'expérimentation, enfin voilà, comme ce qu'on peut voir dans l'exposition. Donc ils étaient très sensibles à ce sujet-là, ils font un événement du coup au pavillon français, c'est aussi, il y a aussi le Grand Paris Express qui va faire des choses, aussi des intervenants extérieurs comme Patrick Bouchain, Biennale Urbana qui aussi intervient dans le pavillon français. Et il y a une réelle continuité aussi entre Biennale Urbana et le pavillon français, parce qu'ils ont remporté l'appel d'offres pour faire la médiation dans le pavillon français. Donc ils sont à la fois dans la médiation au pavillon français et ici. Donc voilà, c'est à peu près ce qui s'y passe au pavillon français. C'est plus des formats de conférences
événementiel. Et ensuite, il y a une bonne partie des lieux qui sont intéressés aussi pour intervenir ici, pour inviter leurs partenaires aussi et pour réfléchir à leur modèle. Donc c'est plus des séminaires de travail et d'expérimentation. Là, dans 20 minutes, on va avoir un temps commun de réflexion avec les 10 lieux pour justement réfléchir aux différentes dynamiques qui les lient, à leur singularité. Et à partir de là, il y a 5 problématiques qui vont émerger pour penser à un événement commun, inviter des intervenants extérieurs en début septembre, du coup, à Experience APP. Donc voilà, ça va être en fait des séries de résidences, des lieux de travail, de laboratoires, des résidences artistiques aussi, des workshops aussi, plus de construction.
Notamment le pavillon de la France, où toute une série d'élèves de Patrick Bouchain ont montré des centres d'art, centres culturels ou des lieux de rencontre qui ne suivent pas tellement une logique top-down planifiée par l'État. Et puis, mais plutôt bottom-up, c'est des commandes qui sont très proches des gens qui occupent ces espaces.
On a listé un petit peu, on a accroché sur les murs déjà nous une cinquantaine de lieux, dont Notre-Dame-des-Landes, que l'on a inscrit sur les murs comme étant des lieux infinis, puisque nous on a donné ce nom leitmotiv un peu.
Sébastien.
Et Notre-Dame-des-Landes est inscrit comme parmi d'autres, comme on a vu, moi j'ai vu tout à l'heure des jeunes architectes russes inscrire sur le mur un lieu qu'ils pratiquent, qu'ils m'ont raconté comme étant un lieu alternatif qui est en difficulté par rapport au gouvernement et qui est à risque. Et donc on espère pouvoir fabriquer une sorte d'atlas un peu à la sortie de la BD 6 mois, parce qu'on voit qu'il y a quand même énormément de visiteurs qui sont intéressés sur toutes ces questions dans le monde entier.
16e Biennale d'architecture Venise 2018, jusqu'au 25 novembre. Second volet, questionnements divers dans le monde.
En bavardant un peu avec l'un et l'autre collègue, on s'interrogeait sur la position prise par les deux commissaire général, donc Grafton, les architectes irlandaises.
Chantal Dassonville.
Très talentueuse. Les commissaires généraux ont toujours l'opportunité de fabriquer deux grandes expositions, une dans le pavillon central des Giardini et une autre dans l'Arsenal, au travers de leur thématique, qui était Free Space. On partageait assez bien un sentiment qui était que il y avait peut-être deux approches possibles, celle qu'elles ont choisie et qui était de finalement aller vers les architectes aujourd'hui reconnus, mondialement identifiés comme étant des architectes de talent ou en tout cas reconnus comme tels, en leur demandant d'illustrer la thématique Free Space. Une autre approche aurait peut-être été d'essayer de dénicher les architectes qui aujourd'hui illustrent cette manière de travailler sur l'espace de liberté, l'espace libre. Voilà, c'était évidemment une démarche beaucoup plus complexe probablement, qui aurait sans doute donné lieu à moins de présence d'architectes très reconnus, mais ça aurait peut-être permis de dénicher d'autres pratiques. Il y avait assez peu de surprises, j'ai envie de dire, par rapport à ça, avec néanmoins quelques belles prises de parole ou quelques belles prises de position dans la manière d'aborder la question, puisque le spectre de la pratique architecturale reste quand même très large.
L'objet de l'exposition du pavillon du Canada à la Biennale de Venise 2018, c'est le pavillon lui-même ?
Exactement. L'objectif était de faire une exposition sur le bâtiment, dans le bâtiment, parce que le bâtiment vient d'être restauré. Donc l'objectif, c'était de faire cette exposition qui parle de l'histoire du bâtiment et de la vie du bâtiment.
Le côté éphémère aussi d'une installation que je trouvais interpellante, c'était un système mécanique qui descendait dans de l'eau savonnée et qui fabriquait une paroi, comme une bulle. Quand on souffle dans de l'eau savonnée et qu'on fabrique une bulle, on fabrique tout à coup une espèce de monde avec la lumière qui illumine la bulle de différentes manières, avec le spectre, les différentes colorations. En fonction du vent, la bulle va plus ou moins s'orienter d'une manière ou d'une autre. En fonction du talent de celui qui manipule l'eau savonnée, la bulle va être plus ou moins grosse, plus ou moins éphémère. Et là, il y avait un système de barres, plusieurs barres qui descendaient dans l'eau savonnée, qui remontaient en fabriquant une paroi extrêmement mince, extrêmement éphémère. Et il y avait un phénomène assez étonnant d'appropriation de cette installation, puisque les gens, d'abord, avaient besoin d'un temps pour comprendre ce qui était en train de se passer, et ensuite avaient envie de jouer avec l'eau savonnée, soufflait. Ce qui veut dire que la paroi, qui était évidemment tout à fait lisse, tout à coup prenait une forme en fonction aussi de la puissance du souffle, éclatait rapidement ou pas rapidement, encore une fois. Et je trouvais que ça interrogeait aussi de manière assez sensible, un peu ludique et un peu... c'était très fin comme ça, comme approche. Le côté éphémère parfois aussi de certaines prises de position, et peut-être qu'il faut accepter ça aussi dans la question de l'architecture. Ça me fait réfléchir en tout cas, puisque plutôt, a priori, une tendance à dire que la question de la durabilité, ça n'est pas la question écologique au sens parfois un peu dogmatique, mais c'est plutôt la question de la durée dans le temps. Je trouve que l'architecture, elle doit avoir une vertu qui consiste à durer, mais la durée, ça n'est pas qu'elle doit être intangible. Hein. La durée, c'est qu'elle doit être appropriable dans le temps, ce qui veut dire que elle doit pouvoir changer de fonction, mais être suffisamment ancrée, suffisamment solide en elle-même pour pouvoir justement subir de manière heureuse, en quelque sorte, les différents modes d'appropriation. C'est évidemment aussi une question qui habite en permanence notre pratique, et notamment quand on est amené à travailler dans du bâti existant, voire dans du patrimoine historique. Il y a l'éternel débat sur qu'est-ce qu'on ramène de l'histoire dans l'actualité de l'architecture. Hein. Puisqu'évidemment, quand on fait un projet d'architecture dans un bâtiment historique, 99 fois sur 100, il ne s'agit pas de refabriquer le même usage.
L'histoire, c'est une histoire qui commence après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait au début des années 50, quand le Canada commence à discuter avec les autorités italiennes discuter de la possibilité de construire un pavillon dans les jardins de la Biennale. Et il y a donc un accord qui est conclu et finalement le Canada engage un architecte. L'architecte engagé est un architecte italien. En fait, c'est une firme italienne. Et la raison pour laquelle le Canada va engager une firme italienne, c'est que au cours de la libération, le Canada ayant participé à la libération de l'Italie, ayant apporté une aide humanitaire aux populations libérées, l'Italie avait donc versé des sommes minimes mais qui pouvaient être utilisées par le Canada en Italie. Et donc une partie de cette somme a été utilisée pour construire le pavillon.
Et le programme, quel était-il ?
Du pavillon d'origine, c'était un programme en fait très modeste, c'était un pavillon d'exposition dans un jardin. Et le programme, en fait un programme modeste avec une superficie de plancher très modeste, mais surtout un programme, on pourrait dire, non monumental, parce que le site était extrêmement difficile, puisque le pavillon futur devait être construit entre le pavillon de l'Allemagne et le pavillon de la Grande-Bretagne. C'était un site boisé, et il fallait donc intégrer le bâtiment sur un site boisé avec des arbres existants qu'il fallait préserver. Une commande extrêmement difficile, et les architectes ont réussi, à mon avis en tout cas, à bien intégrer le bâtiment dans le site et à préserver les arbres existants.
Bâtiment inauguré en
1958, au mois de juin 1958. 60 ans exactement, quasiment jour pour jour. Exactement. Oui, parce qu'il y a eu l'exposition de Bruxelles de 1958, et d'ailleurs pendant cette exposition, le Canada avait fait construire un pavillon très important, imposant, et donc on pourrait même dire que l'inauguration ici du pavillon à Venise a été... je cherche le terme parce que j'ai des termes anglais qui me viennent parfois à l'esprit. En fait, l'inauguration du pavillon n'a pas reçu la même réception critique du fait que tous les regards étaient tournés vers le pavillon du Canada et vers l'exposition de Bruxelles. Inaugurations qui sont produites à peu près en même temps. Enrico Peressuti, qui était le membre de la firme de BBPR qui a été chargé du projet, enseignait au même moment, enseignait aux États-Unis, à Princeton. Et Peressuti, qui avait une affiliation qu'on associe souvent au rationalisme italien, Peressuti et la firme commençaient à se dégager ou s'éloigner un peu de ce langage architectural. Ils cherchaient à développer un nouveau langage architectural. Et Peresutti lui-même était entre autres très impressionné par le travail de Frank Lloyd Wright aux États-Unis. Et on pourrait dire que le bâtiment ici a certains accents wrightiens, tout en étant néanmoins un bâtiment tout à fait italien, construit à Venise, dans les jardins de la Biennale. Régent Legault, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. Professeur à l'école de design, j'enseigne l'histoire et la théorie de l'architecture à l'école de design à Montréal.
Les deux expositions qui étaient sous le commissariat de Grafton Architects, qui étaient particulièrement intéressantes, je trouve, était de voir émerger un autre réseau d'architectes internationaux qu'on connaît mal. Ce n'étaient pas les grandes stars qui étaient là. Il y avait beaucoup de figures qui n'étaient pas invitées. Et du coup, ça laissait de l'espace pour des pratiques peut-être moins connues, très sensibles, mais toujours quand même avec une approche relativement esthétique, une approche qui parle de matériaux, de la capacité de l'architecture de créer d'autres espaces, d'autres esthétiques pour d'autres usages.
Ivan Stroven, avez-vous des exemples sur cette question du sensible dont vous parlez ?
Un architecte norvégien qui a construit un pavillon ouvert dont la maquette était montrée dans l'arsenal. Pavillon qui a été aussi construit échelle 1-1 sur le troisième site de la Biennale. Historiquement, il y a deux sites, il y a Jardini et l'arsenal. Et maintenant, ils ont ouvert aussi un troisième site sur la terre ferme à Mestre, dans un endroit qui s'appelle Forte Marghera. Et là, il y avait un pavillon avec des vidéos et du coup, un pavillon où on peut passer du bon temps à l'ombre, à l'air ouvert, à Venise. C'est un endroit où les Vénétiens vont, c'est-à-dire les Mestriens, ceux qui habitent sur la terre ferme, qui est un ancien fort. Et le pavillon est juste magnifique, en bois, très délicatement conçu, vraiment sensible, une espèce d'esthétique scandinave, ouais, comme je disais, un architecte norvégien. Quand je l'ai visité, loin de la jet-set qu'on rencontre dans la Biennale même, sur ce troisième site où tout est beau, beaucoup plus calme, où on prend un peu de distance et où on digère tout ce qu'on a vu dans le supermarché des Giardini et de l'Arsenal.
J'ai beaucoup aimé le pavillon japonais aussi. Je trouve que le pavillon japonais interroge la représentation de l'architecture. On connaît évidemment l'art du récit par le dessin chez les Japonais. Or, c'est aussi une question qui est assez centrale. Je disais combien aujourd'hui la représentation de l'architecture grâce aux nouveaux outils de l'informatique est potentiellement problématique parce qu'elle vend du rêve. Mais elle vend du rêve formel. En fait, elle vend du rêve convenu. Le dessin, un peu à l'instar de ce que nous avons fait dans le dernier inventaire, où on a appelé des bédéistes et des illustrateurs pour parler de certains projets, c'est-à-dire pour recréer du récit au travers des projets d'architecture. C'est un peu une sensation que j'ai retrouvée dans le pavillon japonais, puisqu'il y avait différents modes de représentation, venant de différents pays aussi, pas uniquement du Japon. Il y avait même des dessins, des collages très très beaux d'ailleurs venant d'Afrique subsaharienne et je trouve que c'est extrêmement sensible puisqu'évidemment c'est très très vivant avec énormément de personnages qui habitent l'espace, ce qui est évidemment toujours tellement essentiel quoi, puisque voilà, c'est pour habiter l'espace qu'on fabrique de l'architecture.
Ce que j'ai aussi retenu, une espèce de dialectique entre deux pavillons, pavillon britannique, Island, qui proposait un pavillon complètement vide. En ce moment, c'était une espèce de prise de position par rapport à ce qui se passe en Angleterre avec le Brexit, climate change, changement climatique, mais aussi le néocolonialisme d'aujourd'hui, des questions comme ça. Et ils ont vidé le pavillon, alors laissé l'espace pour ce débat, et monté à la hauteur de la toiture, une énorme plateforme très généreuse, une espèce de nouvel espace public pour Venise qui permettait de regarder la lagune et de prendre le thé à 4 heures.
16e Biennale d'architecture, Venise 2018, par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
C'est intéressant de voir la dialectique avec le pavillon belge. qui était aussi complètement vidé, où il y a un seul élément qui a été rajouté, qui thématise l'engagement des architectes pour une histoire qui, pour les commissaires belges, était réellement engageante. La question de l'Europe, la seule utopie encore opératoire d'aujourd'hui pour les commissaires, des jeunes architectes belges par ailleurs aussi, des anciens étudiants à moi.
Avec, pour le Grand-Duché du Luxembourg, Andrea Rumpf, Florian Hertwerk. Pour le Canada, Régent Legault. Pour la France, avec entre autres Patrick Bouchain, Ophélie Desrolles, Nicolas Delon, Sébastien Hénard. Regard de la Belgique, Iwan Stroven et Chantal Dassonville.
Et les seuls qui peuvent réellement intégrer toutes ces données dans un modèle spatial, où toutes ces questions, changement climatique, mobilité, les questions sociales sont intégrées vraiment dans un seul modèle qui est spatial, c'est en fait les architectes. Il y a une énorme responsabilité qui est mise, ou un espoir qui est mis dans la discipline de l'architecture pour le dire court, sauver le monde.
16e Biennale d'architecture, Venise 2018.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.